La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour, chers auditeurs. Le 13 septembre 2017, le Comité international olympique attribue à Paris l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cet événement représente un défi à plusieurs niveaux. Le comité d'organisation Paris 2024 titre, je cite, « des jeux moteurs pour l'emploi ». Comment se passe le travail avec l'ensemble des acteurs du monde de l'emploi? Quelle formation mobiliser? Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Marie Barsac, directrice exécutive Impact et Héritage, et Gladys Bézier, responsable formation au comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Bonjour Marie. Bonjour Gladys.
Bonjour. Bonjour.
Marie, pourriez-vous nous présenter brièvement le comité d'organisation Paris 2024 et ses missions?
Alors, nous avons la mission d'organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Donc, c'est deux grands, plus grands événements sportifs au monde qui vont se tenir dans notre pays. Et nous avons d'ores et déjà acté que les Jeux ne seront pas seulement un événement sportif, olympique et paralympique, mais aussi un élan pour faire bouger les lignes dans certains domaines, des lignes de la société. Donc, pour plus de sport dans la vie de chacun et aussi pour modéliser finalement l'organisation de ces Jeux pour qu'elle soit utile et laisser en héritage à d'autres grands événements sportifs. Même en amont des Jeux. Donc c'est dans ces deux directions que nous travaillons.
Tony Estanguet, président du comité d'organisation Paris 2024, annonce « Avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous nous sommes engagés à promouvoir un nouveau modèle d'événement durable, solidaire et responsable, notamment sur le terrain de l'emploi et des opportunités économiques. Comment cela va-t-il concrètement se traduire ?»
Nous avons effectivement en candidature diligentée une étude d'impact économique, c'est un des sujets dans le cahier des charges pour toutes les villes candidates, qui avait chiffré notre impact économique et du coup qui avait chiffré en volume d'emploi cet impact économique. Donc dès que nous avons eu le plaisir d'avoir la mission d'organiser les Jeux, nous sommes tout de suite attelés à spécifier ce que l'on entendait par emploi mobilisé pour mettre en place des actions très concrètes. Parce que, vous l'avez dit, nous avons pris des engagements pour générer des opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin, notamment des opportunités au plan local, pour que la Seine-Saint-Denis en particulier bénéficie d'opportunités économiques, des opportunités d'emploi, mais aussi les TPE, les PME, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, nous avons fait une cartographie des emplois, nous avons lancé en 2018 et qui du coup a été rendue publique le 4 avril 2019. Et cette cartographie des emplois directement liée à l'organisation des Jeux a cartographié dans le temps les emplois qui vont être mobilisés. Donc à savoir quel type d'emploi, donc quelles sont les branches professionnelles concernées, quels sont les volumes qui sont concernés d'emplois à l'intérieur de ces branches et quels sont les métiers aussi concernés. Donc, on a identifié trois branches, la construction de bâtiments, l'organisation, l'événementiel et le tourisme. Et à l'intérieur de ces branches, on a identifié dans le temps quand est-ce que les emplois vont être générés et quels sont les métiers qui sont mobilisés. On a aussi diligenté des fiches métiers qui expliquent les emplois mobilisés pour que l'on puisse travailler sur la cartographie des formations pour demain être pertinent et le plus précis possible pour aller chercher des publics, notamment les plus éloignés de l'emploi, pour répondre à ces besoins d'emploi liés au jeu. Voilà, donc ça c'est vraiment un travail d'analyse très objectif qui a été mené et qui aujourd'hui est un document indispensable pour chacun, donc quand je dis chacun, à la fois les acteurs publics, les collectivités qui sont très mobilisées sur le sujet de l'emploi et de la formation, mais aussi les OPCO, notamment les OPCO qui relèvent de ces champs, ces branches professionnelles que j'ai citées, pour que on puisse tous tourner nos efforts vers les emplois mobilisés par les Jeux et que l'on soit pas déceptif et qu'on travaille bien à des stratégies, à des plans en amont pour maximiser les chances de réussite de ces projets.
S'agissant des emplois induits ou indirects, me semble-t-il, ce sont entre 119 000 et 247 000 emplois, je crois, ce qui est énorme.
Alors ça, c'est les emplois que vous avez, justement, c'est l'étude d'impact qu'on a faite en candidature, donc en 2016, donc qui est assez éloignée, en fait, de l'étude que l'on a faite en 2019, qui, elle, va très précisément, beaucoup plus, elle est beaucoup plus précise parce qu'en fait, le projet s'est largement affiné entre le projet qui était dressé en 2016, qui était un projet de candidature, et aujourd'hui le projet d'organisation que nous avons défini, il y a évidemment des différences, et donc c'est pour ça qu'on a fait cette cartographie pour ne plus parler de façon assez vague, mais bien parler de façon précise. Donc, on n'est plus sur une étude. Par exemple, en candidature, on parlait sur une période de 2018 à 2034. Là, on parle que de 2019 à 2024. Et on parle d'emplois liés directement au jeu. Donc, on ne parle pas des emplois sport, par exemple. Il est certain que, et on l'espère, il va y avoir plus d'emplois dans la branche du sport liés à l'encadrement sportif. Ces volumes-là ne sont pas comptabilisés dans la cartographie des emplois que j'évoquais tout à l'heure. Pour autant, ils existeront et ils seront traités par ailleurs. Mais voilà, on a bien spécifié les besoins dont on parle.
Oui, oui. J'ai vu votre étude d'ailleurs. Vous parlez notamment sur un focus métier de l'accueil et de la réception. Ce sont pas loin de 6700 emplois, je crois, que vous
tout
envisagez
à fait.
Justement de recenser.
Donc
énorme,
du coup, c'est ça. Donc ça nous amène à travailler avec les branches professionnelles, aux passerelles et à l'employabilité des personnes dont on parle pour que on puisse travailler sur des parcours professionnels et surtout qu'on puisse travailler à développer leur employabilité long terme et que finalement ils n'occupent pas des postes juste pour les jeux, mais qu'il y ait des embauches qui soient plus sous la forme de temps plein CDI parce que on aura identifié des ponts, des passerelles entre différents employeurs sur le même métier et que donc du coup on aura donné les assurances pour, de façon certaine, former les gens pour qu'ils puissent travailler de façon plus long terme dans ces secteurs d'activité et que les jeux soient un appel d'air, un pied à l'étrier, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas une première expérience qui se transforme derrière par de l'emploi plus long terme.
D'ailleurs, Patrick Brauzek mentionnait le fait que l'on doit aller chercher les publics éloignés de l'emploi sur nos territoires, parlant bien entendu de la Seine-Saint-Denis. Qu'en est-il du travail avec les partenaires? Alors, je pense à la Fabrique des Jeux qui va accompagner pendant 4 ans et demi les habitants de Seine-Saint-Denis. Je pense aux facilitateurs de la Maison de l'Emploi de pleine commune, les conventions conclues avec les EPT Paris-Terre d'Envol et Grand Paris-Grand Est. Qu'en est-il de tout ce travail avec les partenaires?
Alors, nous menons des réunions très régulièrement avec l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait un pilotage partagé de ces sujets parce qu'en fait, sur ces sujets d'insertion, d'emploi et d'activité économique, il y a beaucoup d'acteurs qui sont à mobiliser. Chacun doit jouer sa copie et être en complémentarité de l'autre. Donc c'est vraiment ça qu'on s'attache à faire. Donc à travers tous les travaux qu'on peut mener, alors qu'ils soient dans le cadre de la Fabrique des Jeux ou sous un autre format, à chaque fois on s'attache à bien délimiter le champ d'intervention des uns et des autres pour qu'on soit plus fort à plusieurs et non un millefeuille que l'on entasse et qui fait qu'au final on n'est pas performant. Donc on est vraiment là-dessus, mobilisation des acteurs, qui fait quoi, qui finance quoi, comment on travaille, dans quel timing. Voilà, c'est ça notre mission. Donc nous, on est là pour au carrefour d'action de beaucoup d'acteurs et on est un prétexte parce que les jeux, ça sera de toute façon juillet 2024. Donc c'est le bon prétexte pour se mettre autour de la table et pas perdre de temps et se donner des objectifs de timing très précis et les suivre.
D'accord. Je vous remercie Marie de tous ces précieux éléments. Gladys, j'aimerais que nous poursuivions sur la formation professionnelle. Mais au préalable, pourriez-vous nous présenter vos fonctions, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis Gladys Béziers. Je suis en charge de la formation à Paris 2024. Donc, je m'occupe du plan de formation des collaborateurs et du futur plan de formation de l'ensemble des personnes qui vont être recrutées pour préparer et organiser les jeux.
D'accord. Gladys, s'agissant de la formation professionnelle, un référentiel de compétences communes à la participation à un grand événement international sera-t-il conçu? Ce que j'entends par là, c'est qu'il me semble qu'il serait précieux pour construire avec les collectivités territoriales concernées, par l'accueil des jeux justement, des parcours professionnels durables pour leurs agents.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant dans le sens où cet événement, qui est un événement majeur, va nous amener à travailler sur un ensemble de compétences, de référentiels. Et nous avons l'intention en effet de pouvoir élaborer un cadre de référence peut-être commun à l'ensemble des grands événements internationaux, sportifs en particulier. Nous travaillons déjà avec les opérateurs de compétences et le ministère du Travail sur un cadre qui concernerait l'ensemble des emplois mobilisés dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais également dans le cadre des grands événements et plus largement que les événements sportifs, les événements également culturels. Donc c'est effectivement un sujet qui peut intéresser l'ensemble des acteurs, en particulier les collectivités impliquées dans ces organisations-là.
Vous avez un échéancier peut-être calendaire à peu près sur la production de ces travaux?
Alors, nous lançons des premiers travaux. Alors, en fait, pour être tout à fait clair, il y a plusieurs populations concernées dans le cadre d'un grand événement. Il y a les collaborateurs, les salariés d'un comité d'organisation et puis plus largement des personnes professionnelles qui vont être amenées à intervenir, peut-être des salariés de prestataires de services par exemple, mais ça peut être évidemment des personnels de collectivités ou en l'occurrence les organisations sportives, des personnels membres des fédérations sportives. Donc on a un ensemble de personnes salariées d'organisations, mais on a aussi beaucoup de volontaires, de bénévoles qui sont impliqués. Pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est plus de 50 000 bénévoles qui vont être mobilisés. Donc c'est aussi une population très importante pour nous. Donc nous travaillons sur plusieurs référentiels, si je puis dire, des référentiels qui permettraient de valoriser les compétences mobilisées par des bénévoles, par exemple, et puis des référentiels qui concerneraient des métiers plus spécifiques mobilisés dans le cadre de l'organisation. Alors en termes d'échéance, pour répondre à la question, les travaux démarrent normalement d'ici la fin d'année civile 2020 pour pouvoir commencer à élaborer certains référentiels et peut-être aller jusqu'à créer des certifications dédiées dès l'année prochaine.
Je pense à certains de nos partenaires en Seine-Saint-Denis. Ils ont déjà fait les premiers recensements sur des compétences spécifiques attendues, telles que des compétences linguistiques, en priorité la langue anglaise, des compétences bureautiques et d'utilisation des outils digitaux, évidemment des compétences d'ouverture culturelle, puisque ce sera un événement pluriculturel, et les gestes de points de secours.
Oui, exactement. Et là, on parle bien du socle quelque part commun presque à tous, à tous les acteurs qui vont être mobilisés sur les Jeux olympiques et paralympiques. Effectivement, vous avez parlé des compétences linguistiques, des compétences numériques, des compétences en matière d'accueil également et de sécurité. Ce sont tous ces sujets-là que nous allons adresser avec l'ensemble des acteurs concernés. Les acteurs locaux, évidemment, qui voient un intérêt majeur en termes de montée en compétences eh bien, de public, que ce soit des volontaires, que ce soit des salariés, pour accueillir demain d'autres événements après les Jeux Olympiques et Paralympiques.
S'agissant toujours de formation professionnelle, plus particulièrement s'agissant de la mobilisation de la jeunesse, je cite un extrait du document « Héritage et Jeux et emploi » du comité de Paris 2024. « L'apprentissage est une voie de passion, d'excellence et d'autonomie, des valeurs convergentes avec celles de l'olympisme. Je crois savoir que les chantiers des jeunes seront avant tout réalisés par des jeunes issus des filières de l'apprentissage en France. » Est-ce que vous le confirmez?
Oui, tout à fait. Oui, en effet, cette question de l'apprentissage est importante pour nous et surtout de l'insertion des jeunes, donc plus largement de l'alternance. Alors, à Paris 2024, nous avons déjà une politique d'alternance avec l'accueil de jeunes, soit en stage, soit en alternance en format apprentissage, contrat de professionnalisation par exemple. C'est important pour nous que les Jeux et l'expérience des Jeux soient une expérience aussi d'apprentissage en particulier pour des jeunes. Il y a par ailleurs toutes les formations qui vont se mettre en place pour préparer les jeunes aux métiers des Jeux, à savoir pas forcément les métiers d'ailleurs au sein du comité d'organisation, mais également tous les emplois qui vont être mobilisés dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Je suppose que Marie, préalablement, en a parlé. On parle des 150 000 emplois qui vont être mobilisés dans le cadre de l'événement. Il y a aussi là matière à effectivement offrir des belles opportunités de formation et de professionnalisation pour des jeunes. Et c'est un objectif partagé évidemment avec l'ensemble, encore une fois, des acteurs et particulièrement des collectivités locales, territoriales.
Concrètement, en quelques mots, quelles seraient vos attentes des collectivités territoriales sur un événement de cette ampleur en termes de formation professionnelle?
Mais moi, je pense qu'il faut surtout, notre attente, c'est surtout de travailler ensemble. On a, nous, un intérêt à pouvoir bénéficier des expertises déjà acquises au sein, juste par exemple, des collectivités en matière de formation et d'accompagnement. Donc nous, on a un intérêt à travailler avec les acteurs et pas à côté, parce qu'on parle ici d'un événement majeur, d'un événement qui va fédérer énormément, bien au-delà même des emplois dont on parle, qui va engager beaucoup de populations. Donc nous, on a un intérêt à travailler avec pour quelque part démultiplier nos forces, nos moyens. Nous, on attend plutôt de collaborer avec les collectivités, en particulier en ce qui me concerne sur les sujets formation. Donc je serais ravie de pouvoir continuer d'échanger pour pouvoir mettre en place des dispositifs qui seront quelque part gagnant-gagnant. Gagnant pour Paris 2024, puisque c'est une manière pour nous de pouvoir engager encore plus de personnes dans ce beau projet, et puis gagnant aussi pour les collectivités qui pourront justement s'impliquer d'autant plus dans cette organisation. C'est un super projet, Il y a une belle opportunité, là, encore une fois, de marquer quelque part l'histoire des personnes qui vont participer à cet événement. Et nous, notre intérêt, c'est vraiment de faire en sorte que cette expérience soit vraiment vécue comme une expérience inédite d'apprentissage et de valorisation aussi, et participe finalement au développement de chacun et quelque part du développement collectif. Donc, nous vous attendons dans cette aventure avec impatience et on a vraiment envie de travailler encore une fois avec toutes les forces vives et en particulier avec les collectivités, bien évidemment.
Merci Gladys de votre témoignage.
Merci.
Merci Marie.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.